Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, toujours avec vous, et bonjour, je vous salue tout de suite, Mélanie Duflo.
Bonjour.
Rebonjour. Alors, plusieurs casquettes, entre autres, ce métier de médecin que vous exercez, même si on en a très 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 peu parlé dans le milieu carcéral. Et puis cette mission, on peut parler de mission avec cette autre casquette, de cette responsabilité que vous avez en tant que présidente d'Annuncio, ce mouvement d'évangélisation qui demande, appelle, forme et équipe des ouvriers en vue de la mission pour la moitié. Alors, dernière ligne droite, toujours autour de cette mission, de cette pauvreté, au fond, du missionnaire indispensable, d'un cœur ouvert et pauvre au service de la mission. Au fond, l'enjeu de la mission, c'est le salut des âmes.
Tout à fait. L'enjeu de la mission, c'est simplement d'annoncer autour de nous l'amour de Dieu. Et du coup, c'est là où je le disais au début de l'entretien, mais la mission nous concerne tous parce que où que nous soyons, nous avons tous autour de nous des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous pouvons leur annoncer, et surtout nous avons tous un appel à prier pour le salut des âmes, pour la conversion des cœurs. Voilà.
Alors vivre de la prière, pour vivre de la mission, vivre des sacrements de l'Église, hein, sacrement de confession, sacrement de l'Eucharistie, des saints qui vous portent aussi dans votre vie et aujourd'hui peut-être dans cette mission avec le mouvement Annuncio, deux figures de saintes, la figure de Sainte Thérèse de Lisieux, surnommée aussi la sainte des temps modernes, la petite Thérèse de Lisieux, et autre visage féminin, Marie-Madeleine. Pourquoi ces deux femmes dans votre histoire?
Alors, ces deux femmes aujourd'hui sont les deux saintes patronnes d'Annuncio, mais à titre personnel, c'est vrai qu'avec l'une et l'autre, c'est vraiment deux grandes amies du ciel. Sainte Thérèse, c'est la sainte patronne de la mission. C'est une jeune femme, elle est morte à 24 ans dans son Carmel, et c'est vraiment celle qui a tout donné. C'est la voix de la petitesse. C'est, en fait, Sainte Thérèse, c'est celle qui, moi, m'a permis de dire « je suis toute petite, je suis même toute cassée et je suis pas une star, je suis incapable sur plein de choses, et pourtant Sainte Thérèse, c'est celle qui m'a permis de me dire bah donne-toi tel que tu es à Dieu, et lui il va te prendre dans ses bras et avec l'ascenseur jusqu'au ciel. Et voilà, Sainte Thérèse, c'est vraiment celle qui, je pense, peut parler à tout le monde, peut nous rejoindre.
C'est quoi son génie, au fond, de la petite Thérèse?
Son génie, Sainte Thérèse, c'est que il n'y a pas plus petit que Sainte Thérèse, donc quelque part, elle nous rejoint tous. Et où qu'on soit, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos incapacités, même quel que soit le mal qu'on ait pu faire ou penser, ou voilà, où que vous soyez, et ça c'est vrai pour chaque auditeur, Sainte Thérèse, c'est celle qui vient nous prendre par la main et qui nous dit « mais t'inquiète pas, sois encore plus petit ». Et finalement, de tout ça, donne-les à Dieu. Et lui, il va en faire des trésors. Et c'est vraiment la voie de l'amour tout petit, quoi. L'amour du quotidien, l'amour de celle qui va ramasser l'épingle, mais qui va le faire pour le salut des âmes. Et tout d'un coup, ramasser une épingle, ça va devenir une prière incroyable. Et c'est pas pour rien que c'est la sainte patronne de la mission. Elle a converti
Vous êtes l'une de ses filles?
Ah ben voilà, oui, Sainte Thérèse.
L'enfant de Thérèse de Lisieux.
Oui, 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 probablement.
Vous avez parlé d'un cœur cassé. Ce cœur a été cabossé un peu par les événements d'une vie un peu compliquée au début.
Oui, alors je pense que...
Sans rentrer dans les détails.
Non, sans rentrer dans les détails, mais de toute façon, on a tous dans nos vies des blessures qui nous sont propres. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée au début de l'âge adulte en me disant que mon cœur était un peu cassé, un peu fracassé. Et le Seigneur est venu me chercher là-dedans, et il est venu me chercher, c'est vrai, beaucoup par Sainte Thérèse, qui elle-même était quand même assez cassée. Hein, c'est pas la figure la plus équilibrée psychologiquement parlant de l'Église.
C'est le milieu de saints qui te parle.
Justement, ouais, c'est. Et puis quand on voit la famille Martin tout entière, il y a une fragilité psychologique familiale. Voilà, la grande sœur vit un drame un moment, elle s'allonge dans un lit, elle n'en sort plus pendant plusieurs semaines. Sainte Thérèse a eu aussi une drôle de maladie quand elle était petite, et c'est le sourire de la Vierge qui vient l'en sortir. Donc oui, il y a vraiment des fragilités chez Thérèse, et ces fragilités, justement, elle les assume et même elle s'en sert comme moyen d'aller davantage vers Dieu, comme moyen de se remettre davantage dans la main de Dieu. Et c'est ça qui est hyper précieux chez Sainte Thérèse, c'est que sa petitesse devient son chemin. Et l'autre figure dont vous parliez, Sainte Marie-Madeleine, c'est la figure de la miséricorde. C'est celle, c'est la femme qui a vécu dans sa chair la miséricorde. C'est celle qui, avec ses cheveux, va laver les pieds de Jésus, qui va pleurer pour laver les pieds de Jésus. C'est Sainte Marie-Madeleine, c'est celle qui est au pied de la croix avec Marie, et c'est la pécheresse pardonnée, celle qui vit dans sa chair cette miséricorde de Dieu qui est vraie pour chacun d'entre nous.
Deux femmes et deux grandes missionnaires, l'une dans son Carmel et Marie-Madeleine dans cette grotte aussi où vous avez eu cette expérience à la Sainte-Baume.
Exactement, oui. Donc,
deux évangélisatrices, deux grandes disciples.
Ouais, tout à fait. Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. Donc, c'est la première qui voit Jésus ressuscité, qui reçoit cette mission de l'annoncer au monde. C'est incroyable.
Alors, évidemment, c'est une femme. Hein,
les apôtres, en bon mec, vont pas la croire et vont vouloir vérifier par eux-mêmes. Et quelque part, on les comprend parce que la résurrection aujourd'hui, c'est peut-être devenu quelque chose d'assez habituel pour nous. Mais finalement, quand on s'imagine à l'époque ce que ça voulait dire, on les comprend qu'ils aient pas cru Marie-Madeleine. Mais c'est quand même l'apôtre des apôtres. C'est voilà.
Alors, on termine ces cinq dernières minutes de la série dans ce lieu et pendant ce pèlerinage du Rosaire. Donc, ce lieu, c'est Lourdes. Ce lieu, c'est pas très loin des studios où nous enregistrons la grotte Massabielle. Et dans ce lieu de Lourdes, il y a aussi deux autres figures de femmes, d'une adolescente, la petite Bernadette et la Vierge Marie, bien sûr.
Oui, et c'est vrai que ma conférence portait sur la pauvreté au service de la mission. Et je terminais toujours en disant qu'on était quand même au meilleur endroit pour parler de ça. Parce que pourquoi nous partons en mission? Par amour de Dieu, de l'Église, du prochain, de nous-mêmes. S'il y en a bien une qui vit cet amour, c'est bien la Sainte Vierge. Et le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint et son nom. Ça, c'est Sainte Marie vraiment qui est là et qui nous apprend cet amour et qui nous donne la grâce de plonger un peu plus dans cet amour. Et s'il y en a aussi bien une qui était toute petite, et c'est bien Bernadette, Marie elle-même disait « Si j'avais trouvé plus petit que Bernadette, c'est j'aurais été là, mais non, il n'y avait que Bernadette. » C'était vraiment la plus petite fille de France à ce moment-là. Et c'est elle, justement, que Marie a choisie pour aller voir son curé, pour aller voir son évêque et lui charger de dire, et Bernadette dirait elle-même, « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Et donc, je crois que c'est vraiment à la suite de Bernadette qu'on peut rentrer dans ce mouvement missionnaire, de dire « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, ça c'est votre liberté, mais je suis chargée de vous le dire. » Et aujourd'hui, nous qui sommes une bande de bras cassés, très pauvres, eh bien, n'ayons pas peur de nos pauvretés. Au contraire, donnons-les à Dieu, parce que c'est dans ces pauvretés qu'il nous choisit pour pouvoir le dire. Et nous n'avons pas la responsabilité de le faire croire. Ça, quelque part, c'est le rôle de l'Esprit-Saint qui va venir toucher les cœurs, mais qui veut nous utiliser. Et donc, on est chargé de le dire, oui.
Alors, deux minutes. Merci beaucoup pour toutes ces interventions qui envoient chacun de nos amis auditeurs, je l'espère, dans une dynamique de mission, partir peut-être dans les rues de ces grandes villes où nous habitons, Paris, Bordeaux, Le Mans, Toulouse, ou ici à Lourdes, près de cette grotte, en prière. La prière aussi, signe d'évangélisation et puis d'intercession aussi pour le monde et les âmes. Nous terminons ces deux dernières minutes avec votre vie aujourd'hui. De présidente dans ce mouvement d'annuncio, mouvement d'évangélisation. Très concrètement, vous vivez comment dans ce mouvement? Vous habitez en communauté?
Alors, nous sommes un mouvement d'église, donc il n'y a pas de religieux ou de prêtres membres d'annuncio. Nous avons en fait des membres qui existent, qui vivent partout en France. Il se trouve qu'en plus, nous avons effectivement à Paris deux maisons, deux lieux d'habitation. L'un qui s'appelle la Casa Annuncio, qui est à Montmartre et qui est une année pour Dieu, pour des jeunes, donc qui poursuivent leurs études en parallèle, mais qui va leur permettre de plonger un peu dans une vie de disciple missionnaire, avec une vie de prière, une vie communautaire, et puis avec un service pour la mission. Et puis la deuxième maison, c'est celle où j'habite, qui est la maison missionnaire où effectivement nous posons la question, alors nous sommes peut-être un peu plus âgés, et de se dire comment est-ce que nous pouvons concilier notre appel à être disciple missionnaire et en même temps notre appel à être laïque au cœur du monde. Et voilà, nous essayons ensemble de concilier un peu toutes ces dimensions. Alors on a une vie de prière ensemble le matin. Et puis, nous partons deux par deux faire de la mission dans notre quartier une fois par semaine. Nous avons aussi une vie fraternelle. Une fois par semaine, on partage une soirée tous ensemble. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on prend le moyen pour être disciple missionnaire et pour être saint, en fait, pour répondre vraiment à cette vocation de sainteté.
Alors aujourd'hui, tous des laïcs célibataires ou des couples
Non, alors dans la maison où j'habite, nous avons une famille. Et puis donc, nous sommes deux à être fiancés par ailleurs. Les autres sont célibataires, mais a priori, appelée à la vocation du mariage, voilà.
Donc la vocation au mariage n'empêche pas cet appel à la mission.
Non, parce
bien au contraire.
Non, non, bien au contraire. Peut-être qu'on s'est trop longtemps dit qu'il fallait attendre que ce soit les curés ou les évêques qui nous disent ce qu'il fallait faire. Je crois que les laïcs, nous avons aujourd'hui un rôle à redécouvrir et à saisir dans l'Église. En fait, nous sommes l'Église vraiment tous ensemble, chacun dans sa vocation particulière, chacun au service de Dieu d'une façon différente, mais vraiment tous appelés à être disciples missionnaires.
Merci infiniment, mademoiselle. Merci Mélanie Tiflo. On vous souhaite une bonne préparation encore dans ce temps aussi important, hein, ce temps
merci.
De fiançailles qui prépare ce bel engagement. Et puis, on vous souhaite bien sûr pour tout le mouvement, tous ces jeunes rencontrés et tous ces jeunes qui se forment, plein de belles rencontres
merci
en
beaucoup.
Vue de ces âmes qui sont parfois un petit peu loin de Dieu, égarées, un peu trop cassées, et que Jésus lui-même va venir visiter, réparer. Restaurer. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.